Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de Fire Escape. Aujourd'hui, on va poser les bases et parler immigration. Pour cela, j'ai invité Jocelyn, qui vit à New York depuis 6 ans et aide les Français à trouver un emploi aux États-Unis. Si vous avez toujours voulu partir vivre en Amérique mais ne savez pas comment vous y prendre, alors cet épisode répondra à toutes vos questions. Direction New York donc, c'est parti.
Je suis actuellement en direct de Floride. Est-ce que tu es à New York ?
Ouais, salut Arthur. Écoute, je suis à New York là, dans la Big Apple.
Donc Jocelyn, ça fait 6 ans que tu travailles à New York, aux États-Unis. Et généralement, quand je rencontre des Français aux US et que je leur demande leur parcours, ils me répondent un truc du type « J'ai rencontré ma femme ici, on s'est marié, donc j'ai une carte verte et je me suis installé dans le pays. » C'est un peu la solution la plus simple et c'est ce que tout le monde me dit. Mais c'est pas ton cas, toi t'as un parcours un peu plus atypique. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu à t'installer ici ?
Ouais, carrément. Alors, je suis arrivé pour la première fois à New York en 2012. Et l'objectif à l'époque, c'était juste de faire une année de césure aux États-Unis. Donc, j'étais en école de commerce et donc je voulais faire une année de césure. Et j'avais trouvé un stage dans une petite start-up à New York. Mmh. Et donc, je suis arrivé avec mes deux sacs en septembre 2012. Et donc, du coup, j'ai fait une première année à New York à cette occasion. Et en fait, à la fin de cette année, j'ai commencé à... Enfin, j'étais vraiment sous le charme de cette ville et je me suis dit, c'est trop bête de rester qu'une année. Et du coup, j'ai trouvé mon premier emploi en faisant pas mal de réseaux. J'ai trouvé mon premier emploi dans une autre start-up. Et du coup, ce qui m'a permis de revenir, je suis rentré rapidement en France pour finir mon école et je suis revenu tout de suite après à New York pour pour travailler pour cette entreprise qui s'appelle Adormi, qui est une startup dans la lingerie basée à New York. Et je suis resté, depuis, je travaille pour cette entreprise, quoi. Donc voilà comment, à partir d'une année, partir une année, s'est transformé en partir beaucoup plus longtemps.
C'est quoi le truc qui t'a vraiment plu et qui t'a donné envie de revenir ?
Alors moi, ce que j'ai adoré avec New York, c'est vraiment l'énergie qu'il y a ici. Je trouve que, quand tu te balades dans les rues de New York, tu vois que les gens, tu vois des gens du monde entier, tu entends parler 10 langues. Je trouve que c'est vraiment un aimant à talent. Et du coup, tu rencontres toujours des personnes qui ils sont hyper motivées par ce qu'elles font, qui sont hyper dynamiques, les gens sont hyper optimistes. Et ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça me stimule vraiment, et c'est vraiment cette stimulation, moi, qui m'a donné envie de rester et qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Et en fait, au départ, c'est un peu intimidant parce que tout va très vite, il faut vraiment, ça prend quelques mois avant de s'adapter au rythme de New York.
Ouais,
mais une fois qu'on est dedans, c'est un peu qu'on prend le train en marche, tu vois. Donc ouais. Au départ, t'es obligé de courir un peu, puis ça t'essouffle un peu, puis une fois que t'es dans le train, et ben en fait, t'apprécies beaucoup et enfin, moi, je suis vraiment, c'est comme ça que je suis vraiment tombé amoureux de la ville, quoi.
Donc, toi, c'est plus New York qui t'a attiré que les États-Unis, au final.
Ouais, mais un peu par hasard, parce qu'au départ, donc moi, je suis dans le milieu de la tech, et quand je voulais faire mon année de césure, l'idée initiale, c'était de partir à San Francisco, parce que je voulais travailler pour une start-up, et je me disais, bon, les meilleures start-up sont dans la Silicon Valley. Ouais. Donc, l'objectif, c'était de chercher un stage là-bas, et en fait, ça n'a pas du tout marché, je n'avais pas du tout de réponse d'entreprise, enfin. Je pourrais détailler plus tard parce que du coup, j'ai pas mal essayé de techniques nouvelles pour résoudre ces problèmes. Mais en gros, franchement, ça marchait pas du tout de mes recherches de stage et là-bas. Et en fait, New York, c'est un peu le plan B. Et puis finalement, donc j'ai trouvé un plan à New York. Et puis finalement, c'était une des meilleures choses qui soit arrivée parce que j'aime beaucoup plus la côte est que la côte ouest, ou du moins pour y vivre. Mmh. Et donc je suis arrivé à New York un peu par hasard, mais c'était vraiment bien quand même.
Et au final, pourquoi tu préfères la côte est ?
En fait, j'aime beaucoup la côte est parce que c'est beaucoup plus dynamique que la côte ouest. La côte ouest, c'est plus je veux pas faire de clichés parce que je connais pas non plus, j'ai pas vécu, donc je pense qu'il y a des gens qui pourront mieux connaître que moi, mais j'ai trouvé ça un peu plus lent, un peu plus calme. Moi, j'aime beaucoup les villes hyper dynamiques où il y a plein de choses à faire, où les gens créent des trucs de fou tout le temps. Et je suis là à San Francisco, à minuit, tout le monde est couché, alors qu'à New York, on dit que c'est la ville qui dort jamais. Donc, c'est le genre de parallèle, de différence qui, en fait, qui fait que je préfère la côte est, quoi.
C'est quoi le premier truc que tu as ressenti quand tu as posé le pied à New York pour la première fois en 2012? Tu es un jeune en année de césure et tu viens de débarquer à New York. Qu'est-ce que tu ressens?
Je me suis senti complètement perdu au départ parce que
c'est compréhensible.
Déjà, je comprenais. Ouais, bah c'est tout va hyper vite, il y a du monde partout, il y a beaucoup de bruit. Enfin, c'est comparé à Paris qu'on connaît mieux, c'est 5 à 10 fois l'énergie, le bruit, tout ça, le monde. Donc au début, j'étais complètement perdu, puis je connaissais personne. Enfin, j'avais 2-3 contacts, mais de personnes que j'avais jamais rencontrées avant. Donc j'ai dû arriver là-dedans. Donc à la fois c'était hyper intimidant, mais à la fois c'était, enfin j'ai aussi adoré hyper rapidement. Et pour les mêmes raisons que j'expliquais tout à l'heure, tout ce côté hyper, enfin beaucoup d'énergie, beaucoup de, enfin les gens, il y a un truc qui est aussi assez fascinant à New York, c'est que les gens sont hyper ouverts et sont assez accueillants. Et du coup, c'est assez, enfin, c'est partout aux États-Unis, d'ailleurs. C'est hyper facile de parler aux gens, juste pour avoir des petits small talk, des petites discussions, même avec des gens qu'on ne connaît pas. Et du coup, enfin, beaucoup plus qu'en France, d'ailleurs, du moins à Paris.
Et ça, c'est très drôle, d'ailleurs, parce que la plupart des Américains pensent que les Américains, et surtout les New Yorkais, sont très fermés, peu agréables, alors que nous, en tant que Français, on trouve qu'ils sont très ouverts, très sympas, très cool.
Ouais.
C'est assez marrant comme contraste.
Ouais, c'est drôle, et puis surtout que nous, ça nous convient très bien parce qu'on est habitué à, entre guillemets, à pire en France. Et pour nous, le niveau de sympathie des New Yorkais nous suffit complètement. Si c'était plus que ça, à la limite, on trouverait ça trop. Donc, mais en effet, pour les Américains, eux, ils trouvent que les New Yorkais sont pas hyper sympas, ils sont plutôt toujours hyper pressés à marcher vite dans la rue parce qu'il voilà, faut qu'ils aillent d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et mais j'ai eu l'occasion de. J'ai fait un semestre universitaire à Saint-Louis, dans le Missouri, avant d'arriver à New York. Et là-bas, dans le Midwest, les gens sont hyper sympas,
oui,
c'est encore plus qu'à New York. Et après quelques semaines passées sur le campus, j'avais l'impression que j'avais plein d'amis, parce que tout le monde me disait bonjour tout le temps, alors qu'en fait, pour eux, ils disent bonjour à tout le monde, mais c'est juste leur façon de faire. Enfin, on n'était pas plus amis que. Ça prend toujours autant de temps aux États-Unis de se faire une vraie amitié que ça prend qu'en France, quoi. Mais c'est juste que une fois que t'as rencontré une personne, même si c'est hyper brièvement, dans le Midwest, les gens ils vont te dire bonjour tout le temps après et tout, et ils vont être hyper sympas. Et à New York un peu moins, mais ils le font toujours plus qu'en France, quoi.
Et donc pour en revenir au côté un peu professionnel, est-ce que t'as l'impression que c'est plus facile professionnellement à New York qu'à Paris ou ailleurs en France? Par exemple, je sais que si je cherche un emploi sur Paris, on va me demander des tas de diplômes, des années d'expérience. J'ai l'impression qu'à New York, c'est plus une question d'opportunité. Je me trompe?
Il y a une chose qui fonctionne beaucoup mieux aux États-Unis, c'est que, enfin dans un sens comme dans l'autre, c'est que la législation autour du travail, donc le droit du travail, est beaucoup plus souple qu'en France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que recruter ou licencier un employé, ça peut se faire du jour au lendemain, il n'y a pas de préavis. En gros, on dit que les contrats de travail aux États-Unis fonctionnent at will. Ça veut dire que du jour au lendemain, les deux parties, donc l'employé ou l'employeur, peuvent mettre fin au contrat. Donc, ça veut dire que si l'entreprise a des difficultés financières, elle peut licencier un employé le jour même. Et un employé peut aussi décider de changer de job et partir d'une entreprise sans faire de préavis. Donc, en fait, dans un sens comme dans l'autre, le marché du travail est hyper flexible. Et d'ailleurs, moi, j'étais hyper choqué de voir que les Américains, dans l'entreprise où je travaille, il y en a beaucoup qui restent un an et puis d'un coup, pouf, ils disparaissent, ils vont dans une autre entreprise et ils restent un an dans chaque entreprise. Donc, leur carrière bouge beaucoup plus, évolue plus rapidement, ils apprennent beaucoup plus de choses rapidement, etc. Du coup, si on se passe du côté de l'employeur, pour répondre à ta question, un employeur il prend beaucoup moins de risques à recruter une personne parce qu'il sait que si ça se passe pas très bien, bon, il peut mettre fin au contrat assez facilement. Du coup, il va pas essayer de chercher pendant des heures si la personne a bien les diplômes qu'il faut, les références qu'il faut, etc. Si, potentiellement, si après un entretien, l'employeur il voit qu'il y a un bon fit, il voit que personne a l'air d'avoir les compétences qu'il faut pour le job, bah voilà, et c'est parti, on commence, et du coup c'est plus facile de commencer à travailler comme ça. Donc peut-être qu'il y a un peu moins de rigidité sur ce point-là.
Et donc tu parles de ces différences du côté professionnel, est-ce que tu as l'impression que c'est plus difficile? Par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, je me suis pris des semaines de 50 heures. C'est un peu surprenant quand on est français. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi?
Tu veux parler des conditions de travail?
Par exemple, sur le fait que les conditions de travail sont différentes, puisqu'il n'y a pas vraiment de code du travail comme on a en France.
Alors, là, pour le coup, franchement, au niveau des temps, des durées de travail, je suis pas convaincu qu'en France, on travaille moins. Ça dépend vraiment des entreprises. Moi, je travaille que pour des startups à New York, et en fait, les startups généralement elles ont des ambitions de croissance assez fortes, et du coup, on travaille plus que la moyenne. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des stages aussi en France, et c'était pareil, c'était les mêmes heures de travail. Je sais que j'ai plein d'amis américains qui font du 9 to 5, donc ils arrivent à 9 heures le matin, ils partent à 17 heures le soir, ce qui est beaucoup plus tôt, quoi. Donc en fait, en termes de, enfin, ça me paraît pas très différent par rapport à ce que peut faire une personne qui travaille dans une entreprise ambitieuse en France aussi. Je pense que ce qui change beaucoup, c'est en termes de vacances. Tu dois le savoir aussi. Moi, j'ai commencé avec 2 semaines de vacances. Maintenant, j'en ai un peu plus parce que j'ai un peu plus de seniorité et du coup, j'ai pu négocier un peu plus. Mais les 2 semaines de vacances, d'ailleurs, c'est un peu ce qui se fait, ce qui est sympa. Enfin, c'est les pratiques habituelles des entreprises, mais elles sont même pas obligées de donner ces 2 semaines de vacances. Tout est ouvert à la négociation, quoi. Donc ça, là pour le coup, les vacances, c'est un peu dur. Je trouve, les Américains, en fait, eux, ils prennent jamais. Nous, les Français, on est habitués à partir 3 semaines en août, à droite à gauche, et vraiment de faire un gros break. Les Américains, ils prennent jamais de vacances comme ça, ou assez rarement. Maximum, ils vont prendre une semaine dans l'année entière, sinon ils vont poser des jours à droite à gauche pour faire des week-ends de 3-4 jours par-ci par-là, quoi, mais ils vont rarement partir à 2 semaines. Donc ça, c'est une grosse différence. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est marrant, un jour j'avais regardé des statistiques officielles de nombre d'heures travaillées par an par Américain ou par Français, et les Américains, ils travaillent ils travaillent 20% de plus que nous, quoi. Et du coup, ouais. C'était aussi pour ça que la fin de l'article, c'était aussi une des raisons qui expliquait que les Américains, ils produisent plus de PIB par an que les Français, quoi. Enfin bon, ça c'est un autre débat.
C'est quoi le truc qui t'a le plus surpris aux États-Unis en ayant travaillé en France avant?
En fait, ce qui me surprend toujours aux États-Unis, c'est que, alors moi je travaille dans le business, et en fait tous les Américains sont hyper forts en business, donc ils savent hyper bien se vendre, partout pour eux, enfin il y a beaucoup de choses pour eux qui sont des opportunités business, alors qu'en France nous on prend moins ça au sérieux. Et du coup, pour eux, ils ont toujours plein de projets, plein d'idées liées au business, et c'est assez marrant. Moi, j'aime beaucoup ça, donc ça me plaît. Mais c'est vraiment ce qui m'avait marqué par rapport à la France. Ils sont hyper forts en termes de business et pour vendre des trucs, quoi.
Et donc d'ailleurs, puisque tu parles de ça, ça me fait penser. Tu dis que tu travailles en business et il y a plein de gens qui sont en école de commerce et qui vont partir aux États-Unis. C'est un peu le chemin classique. Mais tu expliques aussi sur ton site que dans n'importe quelle branche, tu peux partir aux États-Unis. T'es pas obligé d'être en business ou en marketing comme c'est souvent le cas. C'est quoi l'avantage pour une entreprise d'embaucher un Français, surtout s'il a pas forcément un master ou un niveau d'études exceptionnel, dans une autre branche, dans tout ce qui serait créatif par exemple, ou dans d'autres filières dont on n'entend pas forcément parler?
En fait, il y a pour une entreprise, en fait, d'une certaine façon, on est enfin, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Américains. Et on est plutôt assez bien formés, les Français, quand on sort de nos études. Parce qu'on a aussi fait plus souvent des stages que les Américains. Les stages aux États-Unis, c'est pas vraiment partie des cursus universitaires. Enfin, il y en a beaucoup qui en font, mais c'est pas obligatoire en tout cas. Donc nous globalement quand on arrive sur le marché du travail, les Français, on est beaucoup plus près que les Américains, et on est plus facilement opérationnel.
Tu dirais plus ça pour quelqu'un qui a un niveau master ou un niveau licence? Parce que nous, notre licence, elle dure 3 ans, alors qu'elle dure 4 ans pour eux.
Plutôt niveau master. plutôt niveau master, mais pourquoi pas niveau, niveau licence aussi. Alors maintenant que j'ai dit ça, c'est sûr que quand on veut retrouver un emploi en tant que Français aux États-Unis, c'est pas simple parce qu'on part avec une longueur de retard parce qu'en effet, une entreprise américaine, elle a plutôt intérêt, enfin, c'est plus facile pour elle de recruter un Américain parce qu'il n'y a pas de papier à faire et parce qu'aussi, potentiellement, elle s'attend, elle sait un peu plus que de quoi est capable un Américain parce qu'elle connaît l'entreprise connaît le système, connaît son université. Alors que quand elle lit un CV d'un Français, elle va lire les études d'une école en France ou une université en France, elle va se demander vraiment ce que la personne a appris, quoi. Donc on part un peu avec un train de retard et du coup c'est pas évident de trouver un emploi aux US et du coup ça demande quand même de montrer un certain dynamisme pour trouver, enfin de faire preuve de pas mal de dynamisme pour trouver une opportunité ici. Mais après, j'ai vu des gens qui ne sortaient pas de, qui n'avaient pas fait forcément des études les plus prestigieuses en France et qui avaient réussi à trouver l'opportunité aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vraiment démenés, ils sont vraiment, ils ont vraiment mis beaucoup d'énergie dans leur recherche, ils étaient à fond, ils ont fini par trouver. En fait, c'est plutôt ça qui paye plutôt que quel diplôme j'ai à la base. Si les gens qui sont vraiment motivés pour partir aux US, ils arrivent grosso modo à partir. Voilà, même si les études n'ont pas été forcément les plus incroyables derrière.
Et tu as des exemples de gens qui sont partis aux États-Unis pour autre chose que du business international ou du marketing ou quelque chose dans le genre qui... Enfin, quelqu'un qui n'a pas fait une école de commerce au final?
Ouais, bien sûr. Alors, par exemple, j'ai une personne là qui est passée par mon programme premium qui récemment... cette personne-là était développeur informatique, donc c'était... plus spécialement pour entrer dans les détails, elle était spécialisée, elle est spécialisée dans tout ce qui est administration des systèmes, tout ce qui est serveur, réseau, etc. Et elle a trouvé un job dans une boîte à Boston. Donc voilà, là c'était plus profil ingénieur. Il y a aussi une personne qui s'appelle Pierre Axel qui est aussi passé par mon programme, qui en utilisant ma méthode, cette personne-là était designer d'intérieur, donc architecte d'intérieur. Mm-hmm. Assez talentueuse, assez forte, et elle a trouvé. Pierre Axel, il voulait vraiment partir à Los Angeles pour travailler pour des architectes, des cabines d'architecture là-bas. Et il a trouvé en 2-3 mois, il a trouvé chaussure à son pied. Et du coup, là, il est parti il y a pas longtemps avec un visagien. Alors lui, ce qui est assez marrant, c'est que il a vraiment suivi ma méthode. Et dans ma méthode, j'explique un peu les messages qu'il faut envoyer, avec à quel moment il faut faire les relances, en disant quel message. Enfin, vraiment, il y a toutes des étapes à suivre qui sont assez simples, mais qui permet en fait en tant que candidat, enfin en tant que la personne qui recherche l'emploi, ça permet de pas trop se poser de questions du genre bon bah, je sais pas trop quel message envoyer à quel moment, et puis tous les jours vous savez pas trop s'il faut que vous relanciez un contact que vous avez déjà contacté ou pas. Donc moi je donne vraiment les règles. Ok, le jour 1 t'envoies ce message là, après à tel jour t'envoies une relance, tu dis ça, si t'as pas, après si t'as à nouveau pas de réponse, t'as une réponse, tu fais ça ou ça. Donc je donne vraiment toute la méthode, et du coup lui il a suivi exactement comme il fallait, et ça finit par marcher parce qu'il y a des gens qui avoir pas mal de contacts, alors que ça reste quand même un métier assez pointu, quoi. Il n'y a pas forcément beaucoup d'offres dans ce domaine. Il a réussi,
c'est clair, surtout en 2 mois, c'est rapide.
Bah ouais, c'est ça. Et du coup il a réussi à avoir des contacts avec les bonnes personnes. Il y a les personnes qui l'ont répondu, eh ben non, toi t'es insistant, mais un peu en rigolant, dans le sens où t'as bien fait d'insister, parce que sinon je t'aurais d'ailleurs pas répondu. Donc en fait, il a été bien persistant, il a bien suivi la méthode, et ça a fini par marcher. Et du coup, maintenant, il habite à Los Angeles. Il est parti avec sa femme parce que c'est aussi l'avantage pour les couples mariés. Une fois qu'un des deux conjoints qui trouve un emploi et qui avec un visa, le conjoint ou la conjointe peut suivre là-bas aux États-Unis. Et une fois sur place, le conjoint ou la conjointe peut faire une demande d'autorisation de travail qui met à peu près 3-4 mois à arriver. Et après, travailler pour n'importe quelle entreprise aux États-Unis. Donc, eux, ils sont partis à deux. Pierre Axel est parti avec sa femme. Il y a aussi une personne qui a trouvé, qui est passée par mon programme, et elle, c'est une ingénieure en BTP, et qui a trouvé un job. C'était, je crois qu'elle l'a trouvé à Washington, Washington DC. Donc, voilà, encore un exemple de personne qui n'est pas en business qui a trouvé.
Et donc, tu as dit que pour Pierre Axel, il était parti avec un visa J1. Est-ce que c'est le premier truc auquel penser quand tu veux une première expérience aux États-Unis?
Le visagien, ouais, c'est une très bonne porte d'entrée pour arriver aux États-Unis. Moi, j'en ai eu 4, donc je connais toutes les règles sur le bout des doigts des J1. Pourquoi c'est une bonne porte d'entrée? Parce que bon, c'est un visa, pour expliquer comment ce visa fonctionne, c'est un visa qui est... la logique de ce visa, l'idée de ce visa, c'est de dire... le gouvernement américain dit, bon, bah, vous pouvez... un étranger peut venir travailler aux États-Unis pour une courte durée pour se former, quoi. Donc, ça peut être soit pour un stage, soit pour les gens qui sont plus étudiants, une formation, ce qu'ils appellent un training. Donc, c'est une sorte de stage pour les pros. Mais en gros, ça, c'est ce que le gouvernement américain dit. Mais en gros, avec ce visa-là, on peut juste travailler pendant un an et demi aux États-Unis dans tous les domaines, quoi. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut le voir. Et il est assez facile à voir. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas besoin d'avocat pour faire les papiers. Il ne coûte pas très cher. Il coûte entre 1 000 et 3 000 euros. Généralement, c'est l'entreprise qui paye. Voilà, les conditions pour être éligible, c'est assez simple, quoi. Donc, grosso modo, il y a quasiment tout le monde qui est éligible et quasiment toutes les entreprises américaines peuvent faire ce visa. Il suffit juste d'avoir au moins, il me semble, 5 salariés. Enfin, il faut au moins 5 salariés américains pour pouvoir faire un J1. Donc, s'il y a 10 salariés, l'entreprise peut faire 2 visas J1 en parallèle. Donc, grosso modo, c'est un visa qui est assez simple pour arriver aux États-Unis. L'inconvénient, c'est que ça dure maximum un an et demi. Donc, après, à la fin de ce visa, il faut trouver, pour les gens qui veulent rester plus longtemps, il faut trouver une autre solution. Alors, moi, j'ai réussi à renouveler ce visa J1 plusieurs fois parce que j'étais encore éligible, mais il y a des personnes qui ne peuvent plus être éligibles à la fin de ce visa J1. Du coup, il faut passer sur un visa plus long terme. Mais ce qui est assez bien, c'est que. C'est une bonne porte d'entrée aussi parce qu'une entreprise va peut-être vous embaucher et sponsoriser ce visa J1 pour commencer parce qu'il est facile à obtenir. Et si vous commencez à travailler ensemble, et si l'entreprise voit que ça se passe bien avec vous, l'entreprise elle apprécie votre travail et tout, du coup, après se dire à la fin de cette année et demie, comment on fait pour que vous puissiez rester plus longtemps, quoi, avec un autre visa plus long terme. Mais en tout cas, c'est assez facile et pas cher de faire venir une personne pour commencer dans son travail avec ce visa-là, ce visa J1.
J'avais aucune idée que l'entreprise pouvait payer pour le J1. C'est fréquent, ça ?
Bah ouais, c'est hyper fréquent. Moi, pour tous mes visas, l'entreprise a payé les frais de visa. Dans toutes mes expériences, c'est l'entreprise qui a payé mes frais de visa.
Mais il faut quand même passer par un sponsor tiers dans tous les cas.
Il faut quand même passer par un sponsor tiers. Alors, le principe d'un visa de travail aux États-Unis, c'est qu'il faut un sponsor. Ça veut dire que vous êtes candidat. Enfin, toi, tu es candidat. L'entreprise qui t'embauche souvent, c'est ton sponsor. Et du coup, toi, en tant que candidat et avec ton entreprise, tu vas monter un dossier que tu vas présenter à l'ambassade, enfin, pour faire simple. Et l'ambassade va après valider le dossier et te donner ton visa. Dans le cas d'un J1, ils ont simplifié la démarche. Et en fait, pour la plupart des entreprises, sauf si elles sont des énormes entreprises qui ont fait la démarche, mais la plupart ne l'ont pas fait, il faut passer par un sponsor tiers qui va en fait faire office d'organisme qui valide le visa, quoi. Donc en gros, l'employeur va remplir des papiers, le candidat va remplir des papiers, vous allez tout envoyer au sponsor tiers qui va dire « Ok, c'est bon, c'est correct, c'est dans les clous ». Et à partir de avec la confirmation de ce sponsor tiers, c'est possible ensuite d'aller à l'ambassade et de recevoir le visa J1. Donc voilà, mais du coup, c'est à ce sponsor qu'il faut payer la plupart des frais. Mais après, ça peut être le candidat qui paye si l'entreprise ne veut pas payer. Mais le plus souvent, je crois que c'est l'entreprise qui paye. Enfin, c'est de la courtoisie professionnelle. Normalement, c'est l'entreprise qui paye les frais, quoi. Le plus souvent. Et ça, c'est une question qui revient souvent des gens qui me contactent. C'est possible d'avoir un salaire avec un visa J1. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui associent visa J1 avec stage. Ce qui est le visa que les gens ont quand ils font des stages, en effet. Mais c'est possible d'avoir 35 ans et d'avoir un visa J1 et d'être payé 150 000 dollars à l'année. Donc en fait, il n'y a pas de limite de salaire sur le visa J1. C'est vraiment, c'est vraiment hyper flexible là-dessus.
Donc, même si c'est un visa J1 intern, tu peux quand même prendre n'importe quel job que tu peux trouver sur Indeed, par exemple.
Et quand tu es intern, tu peux en effet prendre n'importe quel job qui n'est pas forcément d'ailleurs un stage. Moi, mon premier emploi que j'ai fait juste après mon école, j'avais le visa J1 interne parce que j'étais éligible à ce visa-là. Donc, c'était simple à avoir. Du coup, voilà, on a fait le dossier pour l'avoir. Mais c'était un premier emploi. Donc, c'était un vrai emploi. Et il y avait plusieurs Français dans la boîte. Et il y en avait qui avaient plus d'expérience que moi. Ils avaient autour de 30 ans. Et pareil, ils ont eu le visa J1. Et ils étaient payés au salaire du marché par rapport à leurs compétences. Donc, pas du tout. Ils n'avaient pas du tout un salaire de stagiaire. Donc, en fait, il faut pas, juste pour finir, il faut pas associer le nom du visa avec ce que font les gens derrière, quoi. C'est juste une façon, du moment que tu es éligible, tu le reçois, puis après, derrière, tu fais le métier que tu veux.
Et donc, après ça, ce sera quoi les meilleurs visas pour rester, mais cette fois à long terme?
Ouais, alors, après ça, il y a trois visas qui sont vraiment des visas pour rester à plus long terme. Tu as le visa HAB qui est le plus connu, mais aussi le plus controversé. Le visa H1B, c'est le visa que n'importe quelle entreprise américaine peut utiliser pour embaucher des gens qui ont au moins une licence, des étrangers qui ont au moins une licence. Donc, il y a beaucoup d'entreprises tech qui l'utilisent, par exemple Facebook, Google, Apple. Ils recrutent des ingénieurs à tour de bras grâce à ce visa. Il est assez pratique parce qu'il dure 3 ans et renouvelable une fois 3 ans, donc 6 ans en total, et il permet de commencer les procédures pour avoir une green card. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes aux États-Unis avec un visa H1B, vous pouvez demander à votre entreprise de commencer les procédures pour obtenir une green card. Et cette procédure-là, souvent, elle prend en fonction du pays de votre origine. Mais quand on est français, généralement, ça prend 2 ans. Peut-être un peu plus longtemps maintenant, depuis qu'il y a Trump. Donc, il est assez bien. L'inconvénient majeur de ce visa-là, c'est qu'il y a un quota annuel de 85 000 visas. Donc, il n'y a que 85 000 visas qui sont alloués tous les ans. Mais dans ces 85 000-là, il y en a 20 000 qui sont déjà réservés aux étrangers qui ont un master d'une université américaine. Donc, même si vous avez un master en France, ça, vous n'êtes pas dans les 20 000. Donc, grosso modo, il ne reste plus que 65 000 visas pour tous les autres, quoi. Et en fait, étant donné qu'il y a à peu près 200 000 demandes annuelles, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un gros tirage au sort et c'est vraiment du hasard. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe derrière vraiment. Mais en tout cas, moi, par exemple, j'ai postulé 2 fois et je ne l'ai pas eu. Donc, c'est un visa qui est hyper bien quand on l'a, mais qui est hyper dur à avoir et hyper pas du tout fiable. Quoi. Vous pouvez faire un dossier et puis ne pas l'avoir. Donc ça, c'est le premier visa qui est le plus connu. Le deuxième visa qui est pas mal, c'est le visa L1. Et le visa L1, c'est celui qui est utilisé imaginez, par exemple, vous travaillez pour Amazon en France. Donc, il faut travailler pour une entreprise qui est à l'étranger, enfin, en dehors des États-Unis, pendant au moins 1 an dans les 3 dernières années.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, si l'entreprise décide de vous envoyer aux États-Unis dans une de ses succursales ou dans la maison mère, voilà, vous pouvez avoir ce visa. Mais bon, ça nécessite de travailler du coup pendant 1 an à l'étranger avant de pouvoir être éligible. Donc, ça peut retarder un peu les plans de certains. Et le troisième visa, qui est celui que j'ai, c'est le visa E2. Et ça, c'est le visa qu'on appelle entrepreneur. Donc, à la base, ce visa-là, il a été créé pour les étrangers qui veulent investir et créer une entreprise aux États-Unis. Donc, par exemple, vous voulez créer une boîte aux US et vous avez de l'argent pour le faire, c'est ce visa-là que vous allez avoir. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces entrepreneurs qui reçoivent ce visa-là peuvent embaucher des gens de leur pays pour les aider à développer leur boîte. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec dans mon cas. Donc, je travaille pour Adormi, qui est une boîte de lingerie. Le fondateur est français. Il a levé des fonds auprès d'investisseurs, des fonds d'investissement. Il arrivait avec ces capitaux-là aux États-Unis. Il a dit, moi, je veux créer une boîte aux États-Unis. Il a reçu ce visa E2. Et du coup, il a eu le droit d'embaucher des Français pour l'aider dans sa tâche, quoi. Et du coup, moi, j'ai ce visa E2, mais non pas en tant qu'investisseur, en tant qu'employé. Et du coup, ça, c'est un visa qui est hyper bien parce que il n'y a pas de quota, donc c'est possible de l'avoir toute l'année. Il suffit juste que le dossier soit bon. Et ça, souvent, c'est dans ces cas-là, pour ces 3 visas de travail, souvent, il faut se faire aider par un avocat d'immigration pour vraiment faire un dossier béton, puisque ça peut être un peu compliqué. Mais encore une fois, ça, c'est l'entreprise qui paye ses frais. Et donc voilà, donc il n'y a pas de quota, on peut l'avoir quand on veut, toute l'année. Et bon, là, ça a changé récemment. Maintenant, le visa est valable pour 25 mois. Donc, ça fait 2 ans et 1 mois. Ça a été changé il y a récemment pour ce visa-là. Mais par contre, il est renouvelable. Donc, tant que l'entreprise crée et continue de fonctionner, de tourner, le visa peut être renouvelé tous les 2 ans, quoi, grosso modo.
Mais celui-ci ne peut pas mener une carte verte, je me trompe ?
Et celui-ci ne peut pas mener une carte verte, malheureusement. Le visa L1 peut aussi mener une carte verte, mais pas le visa E2.
Et donc, le H1B, c'est celui qu'on voit tout le temps quand on cherche sur Internet, comment rester aux États-Unis, etc. Mais entre nous, c'est pratiquement impossible d'en avoir un.
Bah, le H1B, ouais, c'est vraiment pas une super idée de tout miser dessus parce que c'est tellement incertain que c'est... Souvent, les gens qui reçoivent les H1B, c'est les gens qui... par exemple, moi, typiquement, j'étais aux États-Unis, j'avais un J1. Et vers le début de mon J1, c'était le moment où il fallait postuler au H1B. Donc, on l'a fait au cas où on était sélectionné, quoi. Au cas où j'étais sélectionné, j'aurais pu l'avoir, mais du coup, je ne l'ai pas eu. Et du coup, à la fin, on m'a passé sur un visa E2. Donc quand on peut le tenter, il faut le faire. Maintenant, être en France et se dire « je veux viser le visa H1B et j'ai rien d'autre », c'est pas une solution hyper fiable. Vaut mieux se dire « je vise le visa J1 et je vise le visa E2 », ce qui me implique surtout de cibler les entreprises françaises qui peuvent sponsoriser ce visa E2.
Mais pour avoir un visa, il faut déjà trouver le job. Et c'est quoi les erreurs que tu vois le plus fréquemment par les Français qui cherchent un boulot aux États-Unis ?
Donc ouais, alors ça fait maintenant depuis un an et demi que j'aide les Français qui veulent partir aux États-Unis à trouver un emploi là-bas. Donc j'ai aidé beaucoup de Français. Donc souvent, je comprends bien quelles sont leurs difficultés. Et surtout moi, j'ai aussi eu ces difficultés quand je cherchais mes opportunités. Et c'est parce que j'ai réussi à justement mettre en place des techniques qui sont alternatives et qui marchent beaucoup mieux quand on est français, que j'ai réussi à trouver mes 2 opportunités et que j'ai réussi à aider les personnes qui veulent partir aux États-Unis à trouver leur opportunité. Donc généralement, un Français, quand il veut partir aux US, la première chose à faire, c'est d'adapter son CV au marché américain. Et c'est beaucoup plus que faire une simple traduction de son CV en anglais. Donc il y a plein de le CV américain complètement différent du CV français, donc il y a plein de codes à respecter. Il faut savoir bien mettre les bonnes compétences en avant, bien savoir se vendre. Les Américains ils se vendent hyper bien, donc il faut bien mettre en avant ses résultats, ses achievements. Et donc rien que ça, il y a un travail qui est assez fort à faire là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Et souvent les Français ne le font pas assez. Grosso modo, ils traduisent leur CV, ils changent 2-3 trucs, et puis en fait, c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment investir plus de temps là-dessus parce que c'est ce qui va permettre après de vous faire rappeler pour un entretien. Deuxième erreur qui est assez fréquente, c'est que les Français ne ciblent pas bien les entreprises. C'est-à-dire que si par exemple, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que il y a seulement une minorité des entreprises qui sponsorisent des visas. Bah, c'est comme en France, quoi. La petite entreprise du coin, elle n'a jamais travaillé avec un étranger, elle ne sait pas ce que c'est un visa, elle n'a pas envie d'en faire un parce qu'elle n'a pas envie de s'embêter. Donc en fait, déjà, si dès le départ, vous ne ciblez pas les bonnes entreprises qui ont déjà sponsorisé des visas dans le passé, bah, en fait, c'est comme si vous arrosez votre CV partout, mais les gens ne vont jamais vous répondre, quoi. Donc ce qui est important, c'est de cibler les bonnes entreprises. Et qui sont les entreprises ? Comment savoir si une entreprise a déjà sponsorisé un visa dans le passé ou pas ? Bah, le moyen le plus simple, alors moi je vous le dis comme ça, mais moi ça m'a pris plusieurs mois avant de vraiment comprendre ça, c'est qu'en fait, si vous ciblez une entreprise dans laquelle travaille déjà un Français, ça veut dire que l'entreprise a déjà sponsorisé un visa et que potentiellement elle peut vous en sponsoriser un aussi. Donc déjà, cibler l'entreprise dans laquelle travaillent des Français, c'est une des clés pour trouver un job aux US. Et la troisième erreur, c'est de postuler à des offres d'emploi. Donc il y a beaucoup de gens quand ils veulent partir aux États-Unis, et même quand ils cherchent un emploi en France aussi, ils vont naturellement postuler des emplois. Donc ils vont sur Indeed, LinkedIn, et puis hop, ils envoient leur CV, ils envoient leur CV à la chaîne en trois clics en postulant des offres d'emploi. Et ça, en fait, bah, c'est un peu le même problème que ce que je viens de dire. Quand vous faites ça, vous ne ciblez pas. Donc, vous envoyez votre CV à des entreprises qui n'embauchent pas à l'étranger. Et surtout, quand vous faites ça, vous êtes noyé dans la masse. Moi, une fois, j'ai voulu recruter pour mon équipe chez Adormi une personne. J'ai posté une offre sur LinkedIn. En un mois, j'ai reçu, je crois, 2000 candidatures, quelque chose comme ça, quoi. Donc, j'ai jamais tout lu, j'ai jamais tout ouvert les CV. Wow. Donc, en fait, et alors, si vous êtes en plus étranger, ou le recruteur, il voit que vous êtes français, bah, il y a encore moins de chances qu'il vous rappelle, quoi. Parce qu'il va se dire, ah, c'est compliqué, alors qu'il y a tellement de personnes à côté qui sont déjà sur place. Donc, en gros, postuler à des offres, c'est vraiment peine perdue. Ce qu'il faut, c'est utiliser des techniques de réseau. Donc, c'est vraiment, moi, je base toute ma stratégie là-dessus. Donc, c'est vraiment cibler les bonnes entreprises, cibler les bonnes personnes avec le bon message. Dire ce qu'il faut pour obtenir les entretiens, et c'est plutôt comme ça que ça marche, quoi.
Et faire des candidatures spontanées, alors
ouais, mais même pas, parce que candidature spontanée, tu risques de te retrouver en fait, c'est plutôt essayer de faire du réseau, de réseauter, plutôt que d'essayer de faire la candidature spontanée. Parce que en gros, quand tu te mets dans la tête d'un recruteur, ce qui a un poste ouvert, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de... Enfin, une personne qui recrute pour son entreprise, elle va essayer de faire deux choses. Elle va essayer de recruter quelqu'un qui... Une personne compétente. Et surtout, essayer de recruter en y passant le moins de temps possible. Parce que, bon, on a tous des 50 000 trucs à faire dans la journée. On a tous envie de rentrer tôt chez nous le soir. Donc, plus on peut faire une tâche rapidement, bah, plus on est content, quoi. Mm-hmm. Donc... L'intérêt du recruteur, c'est de recruter quelqu'un qui connaît, qui sait, de quelqu'un dont il va être sûr qu'elle va faire du bon travail et le plus rapidement possible. Donc, comment il va faire le recruteur ? En gros, il va déjà voir si en interne, il y a des gens qui sont intéressés par le poste. Si c'est une grosse entreprise, peut-être qu'il va déjà pouvoir recruter en interne, donc c'est parfait. Il sait qu'il connaît bien la personne parce qu'elle travaille déjà dans l'entreprise et c'est rapide. Après, l'étape numéro 2, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir si il s'est fait recommander des personnes. S'il se fait recommander des personnes par son réseau, ben, il peut se dire, ah bon, bah, cette personne-là m'est recommandée par quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance. Du coup, c'est un gage de fiabilité, quoi. C'est un gage de qualité pour cette personne-là. Et en plus, c'est rapide. Ben, voilà, je dois avoir un entretien. Ça me fait gagner du temps plutôt que d'aller parcourir des centaines de CV, quoi. Donc, il va aller faire ça. Ensuite, après, s'il y a personne qui ne connaît personne dans son réseau direct qui connaît, alors là, après, il va se dire, bon, bah, je vais poster une offre sur Internet et je vais aller me cotiner tous ces CV à lire, etc. Donc, voilà. Et vraiment, le dernier recours, c'est la candidature spontanée. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas forcément de poste ouvert. Donc c'est vraiment la candidature spontanée, c'est le dernier recours pour un recruteur, quoi. Donc en fait, ce qui marche le mieux, ce que je veux dire par là, c'est ce qui marche le mieux, c'est de plutôt essayer de faire d'utiliser les techniques de réseau et de rencontrer les gens sur place, d'essayer de rentrer en contact avec des gens qui habitent sur place, pour ensuite créer du contact, créer du lien et essayer que ça débouche sur quelque chose de plus concret derrière. Et c'est vraiment, du coup, moi, ce que j'explique dans mon programme premium.
Mais comment tu te le crées, ce réseau ? Sur Internet avec des réseaux comme LinkedIn, ou tu as d'autres outils qu'on connaît un petit peu moins ?
Ce serait un peu long de tout expliquer là, mais
oui, bien sûr.
En gros, il y a des outils qui sont, ouais, tu peux par exemple utiliser LinkedIn qui marche bien, tu peux utiliser l'email tout simplement, ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser d'envoyer les bons messages. Si tu envoies un message, par exemple, qui dit juste « Ah bah voilà mon CV, est-ce que tu recrutes ?» à quelqu'un que tu ne connais pas, bah c'est un peu lourd, quoi. Enfin, la personne n'a aucune raison de t'aider alors qu'elle ne te connaît pas. Donc, il faut essayer d'être un peu plus malin. Et du coup, c'est ce que j'explique dans le programme, quoi.
Et une fois que tu as enfin décroché le boulot, que tu as finalement le visa, tu arrives aux États-Unis, comment ça se passe pour toutes les choses comme trouver un logement, te faire à la culture ? Comment ça se passe si on se base sur ton expérience ou en prenant l'exemple d'un de tes clients ?
En fait, c'est pas forcément hyper simple de trouver un logement aux US. Moi, personnellement, je suis arrivé, je comprenais rien de comment la ville était foutue, où est-ce que fallait habiter, les endroits sympas, les endroits moins sympas. Enfin, la ville de New York, en plus, fonctionne beaucoup par quartier. Donc, t'as le quartier hispanique, t'as le quartier jamaïcain, c'est assez marrant. Donc, c'est hyper différent entre les quartiers. Donc, moi, au début, j'étais pas du tout organisé. Mais au final, ce qui est tellement le plus dur, c'est vraiment de trouver un emploi et son visa. Une fois qu'on est sur place, le plus dur est fait. Après, bon, c'est pas forcément hyper drôle de chercher un appart, mais ça fait des bonnes histoires à raconter. Moi, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'étais plutôt sur Craigslist, le bon vieux Craigslist, donc qui est l'équivalent du coin en France. Et puis voilà, je regardais les annonces. Et puis il faut aussi, je pense que c'est bien d'essayer de parler aux autres Français qui habitent déjà dans la ville pour leur demander, ça fait gagner du temps. Moi, j'aurais dû le faire. Il faut leur demander un peu quels sont les endroits sympas où habiter. Parce qu'eux, ils savent que les expats ou. Enfin, ils savent, les Français veulent tous habiter au même endroit, grosso modo, parce que les mêmes endroits nous plaisent. Et du coup, voilà, c'est plus facile de demander un peu avant de se lancer dans ses recherches où est-ce qu'il faut habiter. Et après, comme ça, c'est plus facile. Après, enfin, on peut mieux cibler, du coup, ces recherches. Quoi.
Donc, ça fait maintenant 6 ans que tu vis à New York. Je pense que tu as vécu pas mal de choses depuis. C'est quoi ta plus grosse galère dans cette aventure ?
Ma plus grosse galère, c'est assez marrant. C'est qu'en fait, j'en ai pas parlé plus tôt, mais je suis arrivé pour une année de césure, comme j'ai expliqué. J'ai travaillé pour une première entreprise, une première start-up qui était vraiment à ses débuts. Elle avait un peu d'argent. Et puis en fait, au bout de… J'étais là depuis 6-7 mois et l'entreprise brûle tout le cash qu'elle avait levé, n'arrive pas à relever une autre levée de fonds et du coup dit « bon, on met la caisse sous la porte ». Et du coup, moi, j'étais arrivé, je m'étais démené comme un fou pour pouvoir trouver cette opportunité. J'étais hyper content d'être là. Je me disais, bon, voilà, je fais 1 an à New York, ça va être incroyable. Et là, on me dit au bout de 6-7 mois « ah bah en fait, c'est fini ». Et j'étais genre merci les gars, qu'est-ce que je fais maintenant quoi. Et je me suis dit bon je vais essayer de me trouver, je me laisse un mois pour chercher quelque chose d'autre. Et là j'ai remis en place toutes mes techniques que j'avais utilisées pour trouver cette année de césure. Je réutilise toutes ces techniques de réseau, je mets ça en place mais en puissance 10 quoi. Et je me rappelle au bout de en un mois, j'avais genre 1 cm d'épaisseur de carte de visite, tellement j'avais rencontré de gens. Et finalement, c'est comme ça que j'ai trouvé mon emploi chez Adormi, quoi. Et du coup, j'ai pu finir mon année chez Adormi, finir les quelques mois de stage. Et après, derrière, j'ai enchaîné sur. Ils m'ont repris pour mon premier emploi, quoi. Mais en gros, c'était ça la plus grosse galère, quoi. C'est de me retrouver. Le loyer à New York, ça coûte hyper cher. ça coûte, je crois que je payais à l'époque, j'avais une petite chambre et je payais $800 déjà. Mais bon, j'avais un salaire de stagiaire, donc il faut quand même se les payer. C'était un peu chaud, mais finalement, c'était un mal pour un bien parce que j'ai pu rester encore plus longtemps que prévu. Mais c'est ça qui est assez fou avec New York, c'est que tout va très vite. Donc les gens qui sont motivés, qui vont vraiment de l'avant, il y a toujours des solutions, quoi.
Donc, toi, du coup, sur ton site internet, tu donnes des conseils sur tout ce qui est visa et trouver un emploi aux États-Unis. Moi, je me suis inscrit à ton cours gratuit, ça m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce que tu proposes sur ton programme premium ?
Ouais, alors, en fait, pour raconter l'histoire de pourquoi j'ai lancé ça, donc en fait, j'ai lancé un site qui s'appelle unjobpouralex.fr, donc Alex comme le prénom, donc c'est tout attaché, unjobpouralex.fr. Et là-dessus, en fait, l'idée, c'était de dire, moi, j'ai tellement galéré pour trouver ces deux opportunités aux US. J'ai réussi non pas parce que je suis quelqu'un d'incroyable et un génie, pas du tout. C'est parce que après avoir remarqué que mes techniques juste de postuler des offres d'emploi sur Internet ne marchaient pas du tout, j'ai utilisé des techniques alternatives qui marchent beaucoup mieux pour se faire recruter aux US. Et du coup, je me suis dit, six mois, ça m'a aidé de faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont être contents d'apprendre ces techniques-là aussi. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de Français qui me demandaient des conseils, quoi. Donc, j'ai créé ce cours gratuit. Donc, c'est un cours où vous pouvez vous inscrire par email et vous recevez 5 leçons par email. Il y a une leçon par jour. Je parle du CV, je parle des lettres de motivation, je parle de différentes choses. Et derrière, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui sont vraiment les plus motivés, j'ai un cours plus détaillé qui va vraiment plus loin. plus avancé et qui est vraiment unique en son genre parce que c'est le seul cours, c'est la seule, le seul programme en ligne qui explique vraiment toutes les techniques qui sont parfois un peu contre-intuitives pour trouver un job aux US. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là ? Donc il y a déjà toute la stratégie vraiment détaillée pas à pas en vidéo. Donc il y a une trentaine de vidéos, ça dure 3 heures, les gens peuvent regarder ça à leur rythme. Et là-dedans, j'explique vraiment, ok, étape par étape, tout ce que tu dois faire, expliquer dans les moindres détails. Donc il y a des étapes, c'est hyper sympa à suivre. Et du coup, ça permet aux gens de vraiment de comprendre la logique, de ne pas se poser de questions, parce qu'ils savent, ok, bon, bah, je commence par faire étape 1, c'est ça, ok, moi j'ai fait étape 1, après étape 2, étape 3. Et du coup, ça simplifie beaucoup la recherche d'emploi, ça la rend vraiment moins anxiogène. La deuxième gros bloc, c'est que j'ai construit une base de données d'entreprises qui ont déjà embauché des Français aux États-Unis. Donc, encore une fois, j'ai expliqué tout à l'heure que la clé pour trouver un emploi aux US, c'est de cibler les bonnes entreprises, notamment dans celles dans lesquelles travaillent déjà des Français. Donc, avec cette base, par exemple, si vous travaillez en marketing et vous voulez aller à San Francisco, vous mettez marketing San Francisco, exactement comme dans Google, paf, vous tapez entrée et là, il y a la liste d'entreprises qui ont déjà embauché les Français en marketing à San Francisco. Et du coup, ça vous permet de beaucoup mieux cibler vos recherches, quoi. Après, il y a aussi des services un peu plus sur mesure où je vous aide un peu à vraiment bien adapter votre CV au marché américain pour qu'il soit hyper percutant, pour qu'il utilise l'anglais vraiment parlé par les Américains et qu'il mette bien en valeur vos compétences. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, il y a aussi des possibilités de faire du coaching. Donc là, c'est je vous prends au téléphone pendant quelques heures et on met vraiment en place une stratégie sur mesure. Je vous fais préparer vos entretiens. Donc, comme ça, vous êtes vraiment incollable quand vous passez vos entretiens. Vous savez bien négocier votre salaire, etc. etc. Donc, grosso modo, ouais, voilà, c'est 4 choses dans ce programme-là, c'est le cours, la stratégie en vidéo, la base des entreprises qui recrutent des Français aux US, de l'aide pour vraiment faire votre CV et du coaching pour ceux qui veulent aller plus loin.
Et donc, autre que ce que tu as raconté plus tôt, est-ce que tu as des exemples d'histoires inspirantes de Français qui sont passés par ton programme et qui ont réussi à décrocher leur job de rêve aux États-Unis ?
Success story du programme, c'est une fille qui s'appelle Julia qui travaille maintenant en marketing à New York. Et Julia, c'est pareil, elle avait un peu cherché toute seule dans son coin avant. Elle avait envoyé des CV partout, elle avait jamais eu de réponse. Donc, elle sentait bien qu'elle piétinait un peu, qu'elle faisait du surplace. Elle a rejoint mon programme, elle a regardé les vidéos, elle a suivi la méthode, mais vraiment, vraiment comme moi, je le préconisais. Elle a envoyé 2 emails. Ces 2 emails-là, c'est pour vous dire comment elle a hyper bien ciblé, quoi. Elle a envoyé 2 emails. Elle a eu 2 ouais. entretiens avec ça, 2 entretiens d'embauche. Et elle a eu derrière 2 offres. Donc, elle a eu le luxe de pouvoir choisir entre ouais. 2 offres d'emploi pour partir aux US, quoi. Donc ça, je crois que
ça, c'est fort.
C'était hyper rapide pour elle, en plus. Généralement, ça prend souvent quand même un peu plus de temps. Mais ça, c'est la plus grosse success stories. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a aussi beaucoup de conjoints ou conjointes d'expatriés qui passent, qui me contactent et qui travaillent avec moi, qui passent par mes programmes. Donc c'est quoi ? C'est souvent monsieur ou madame travaille pour une grosse entreprise française, se fait envoyer aux États-Unis et donc le conjoint, la conjointe suit avec le visa. Donc ils arrivent sur place, ils se disent bon j'ai envie de trouver un travail et en fait s'adapter au marché américain. C'est pas forcément évident, donc ils utilisent ma formation et mon programme. Et donc voilà, cette personne-là s'appelle Aurélie et elle a trouvé un emploi chez Uber, donc les taxis à la demande là, qu'on connaît tous, à San Francisco. Donc elle travaille en marketing chez Uber. Donc je crois que c'est la personne qui a trouvé un job dans une entreprise, dans l'entreprise la plus connue, quoi. Donc voilà, donc il y a pas mal de cas comme ça. J'ai aussi des personnes qui ont trouvé en marketing à Boston, d'autres dans la vente à Chicago. C'est tout ce qui me vient en tête actuellement. Il y a aussi, je crois qu'il y a aussi il y a des gens qui ont trouvé des stages aussi, des personnes qui ont trouvé des stages, notamment une personne qui a trouvé à Miami. Donc, c'est vraiment disséminé partout aux US, plutôt dans les grandes villes, parce que c'est là où il y a forcément le plus d'activité, quoi.
Et pour terminer, je vais te demander, toi qui as ta propre success story, et qui a aussi assisté à d'autres, comment tu définirais l'expression rêve américain? Est-ce que tu penses que ça existe encore? Et surtout, ça serait quoi ta propre définition?
Alors, le rêve américain, je pense que c'est un concept hyper fort. C'est un peu. C'est la même chose que la German Qualität, quoi, la qualité allemande. Tu vois, eux, c'est, en Allemagne, c'est ça. Aux États-Unis, ils ont le, ouais, le rêve américain, qui permet de fédérer toute une population autour d'un même idéal. Ce qui permet d'aligner, c'est des valeurs communes, quoi. Ce qui permet de faire en sorte que les Américains, c'est une nation. Donc ça réunit vraiment beaucoup de monde autour de ce concept-là. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, les personnes qui réussissent sont hyper valorisées parce que c'est fait partie. Ils ont fait leur rêve américain et du coup, les gens qui réussissent sont pas jugés par les autres. Ils sont plutôt adulés d'ailleurs par les autres. Et alors, je pense que c'est clairement aux, ouais, États-Unis, il y a vraiment le côté entrepreneur. Tout le monde a sa chance, tout le monde peut y réussir, et le système est beaucoup plus libre, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus libre. Donc par exemple, concrètement, les gens ont des salaires plus élevés, mais par contre il y a beaucoup moins de services publics à côté. Donc la santé, c'est privé, tous les services publics sont réduits au minimum, mais par contre les gens gagnent plus d'argent, donc s'ils veulent après dépenser dans leur santé, ils peuvent, s'ils peuvent dépenser dans leur éducation, ils peuvent aussi. Alors maintenant, ce système-là, je trouve qu'il marche hyper bien pour les gens qui ont eu la chance de faire des études et qui sont en bonne santé. Pour les Américains qui n'ont pas suffisamment d'argent pour se payer des études et qui sont en moins bonne santé, bah, eux, c'est un peu des laissés pour compte. Donc le système a aussi ses défauts, quoi. Mais pour les gens qui sont chanceux et qui ont toutes les cartes en main, le système permet de faire beaucoup de choses et permet peut-être plus qu'en France. Peut-être en France, on essaie plus que de répartir la chasse un peu mieux, et ce qui est d'ailleurs aussi ses avantages.
Eh bien, merci beaucoup pour tes réponses, Jocelyn, et surtout merci pour ton temps. Pour ceux qui nous écoutent, je vous recommande vraiment d'aller voir le blog unjobpouralex.fr. Rien que pour le cours gratuit, je trouve que ça en vaut vraiment la peine si vous voulez trouver du travail et surtout si vous voulez vous renseigner sur les visas, parce que c'est un vrai casse-tête. Donc merci, Jocelyn, pour tout ce que tu fais, et merci d'avoir inauguré ce premier podcast.
Eh bien, écoute, avec plaisir, Arthur. Merci à toi aussi, puis à bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.